À Lomé, 21h à Bamako et à Kidal. Bienvenue dans Sahel Plus, préparé et présenté par Claire Morin-Gibourg. Bonsoir à tous, au sommaire de Sahel Plus. Aujourd'hui, 3 juillet, journée mondiale sans sac plastique.
À la boutique, vous achetez n'importe quoi, on vous met dans un chassis. Après utilisation, vous jetez un peu partout. C'est vraiment un désastre à Dakar.
Les sacs plastiques qui polluent durablement les sols africains. Reportage à Dakar à suivre. Et nous suivrons également une petite ONG togolaise qui tente de recycler les sacs plastiques pour en faire des pavés. Rubrique culture, nous nous intéresserons au projet Sahara Rocks du journaliste Arnaud Contreras qui tente de réunir des fonds afin de publier un livre qui veut montrer une image positive du monde Touareg. Mais auparavant, voici le bulletin d'information.
Jean-Roger Billon à ce microphone, bonsoir à tous. Fin de la réunion ministérielle d'urgence sur le virus Ebola à Accra au Ghana. L'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, réclamait au ministre ouest-africain de la santé des mesures concrètes pour mettre un terme à la propagation de la maladie dans la région. Au sorti de cette rencontre de deux jours, la ministre de la santé et de la lutte contre le sida de Côte d'Ivoire fait le point. On écoute Dr Raymond Goudou-Kofi.
L'OMS, le gouvernement et les partenaires ont réfléchi pendant deux jours sur d'abord le renforcement de ce qui est fait déjà sur place par rapport donc à la non-propagation du virus Ebola. Et pour les pays comme les nôtres qui n'ont pas été touchés par le virus Ebola mais qui partageons des frontières communes avec ces pays, quelles sont les différentes étapes obligatoires par lesquelles nous devons passer pour contenir éventuellement l'épidémie si elle survenait et quelles sont les mesures préventives que nous pouvons faire pour justement éviter la rentrée du virus Ebola dans notre pays, et plus particulièrement en Côte d'Ivoire.
Alors, Raymond Kofi Goudou à Accra, vous écouterez l'entièreté de cette interview demain dans notre édition de 5h30 et de 6h. Washington annonce le renforcement de la sécurité des aéroports étrangers desservant les États-Unis. De son côté, l'ambassade américaine en Ouganda a mis en garde ce jeudi contre une éventuelle attaque terroriste à l'aéroport international d'Entebbe. Jacques Aristide.
C'est la police ougandaise qui a alerté la chancellerie américaine à Kampala contre ce qu'elle a qualifié de menace spécifique d'attaque terroriste jeudi entre 21h et 23h à l'aéroport situé en périphérie de la capitale. Aucune indication toutefois quant au groupe suspecté d'être derrière ce projet d'attaque. À la lumière de l'information, l'ambassade américaine conseille aux voyageurs ayant prévu de se rendre à l'aéroport dans la soirée de jeudi de revoir leur plan. Auparavant, des responsables de l'administration Obama avaient déclaré que les États-Unis prévoyaient de renforcer la sécurité dans certains aéroports étrangers, particulièrement en Europe et au Proche-Orient, avec des vols directs vers le pays. Washington craint la fabrication par Al-Qaïda de nouvelles bombes qui pourraient contourner les contrôles dans les aéroports et être introduites à bord d'un avion. Londres a également rehaussé les mesures de sécurité dans l'aviation après l'avertissement américain.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
L'aviation israélienne a frappé des cibles dans la bande de Gaza jeudi, aujourd'hui donc, alors que les militants palestiniens ont continué de lancer des roquettes contre le sud d'Israël. Après plusieurs tirs, les Israéliens ont renforcé leur présence militaire à la frontière avec Gaza. Bonne nouvelle pour l'économie américaine, le taux de chômage a chuté à son niveau le plus bas depuis près de 6 ans. Le rapport publié aujourd'hui par le département du travail indique un taux de 6,1% à la fin du mois de juin. Le même rapport fait état de la création de 288 000 nouveaux emplois. Le mois dernier, les investisseurs ont réagi avec enthousiasme, poussant l'indice des valeurs industrielles Dow Jones à un niveau record de 17 000. Enfin, le premier ouragan de la saison dénommé Arthur pourrait frapper ce soir les communautés côtières de la Caroline du Nord. Selon le Centre national de météorologie des États-Unis, Arthur avançait ce matin avec des vents soufflants jusqu'à 130 km à l'heure, ce qui en fait un ouragan de catégorie 1. Cependant, il pourrait augmenter d'intensité dans les prochaines 24 heures, on prévoit de fortes pluies qui pourraient bien gâcher les festivités nocturnes du 4 juillet à l'occasion du 238e anniversaire de l'indépendance des États-Unis. Vous écoutez La Voix de l'Amérique. Place maintenant, on va escalader les dunes du Sahel avec Claire Morin-Gibourg.
Retour à la partie magazine de Sahel Plus. Aujourd'hui, à l'occasion de la journée mondiale sans sac plastique, nous revenons sur cette plaie environnementale mondiale qui est particulièrement importante en Afrique. Si 88% de la surface des océans est polluée par des débris de plastique, les sacs et les sachets plastiques sont aussi omniprésents dans la vie courante. Reportage à Dakar de notre correspondante Dienaba Sedouba.
Ils sont unanimes. Les déchets plastiques ont envahi Dakar, ce que dénoncent nos interlocuteurs.
C'est très risqué pour notre environnement.
C'est un phénomène qui pose problème à Dakar.
Ça me désole parce que au niveau décor, c'est très désolant. Ils gardent le décor au niveau de la ville de Dakar.
Les sachets plastiques font partie du quotidien des Sénégalais. Et pourtant, ces sachets sont nocifs à l'environnement, nous dit Idrissa Sané et son ami Massamba Samb, rencontrés en centre-ville.
C'est pas des déchets qui peuvent être transformés, qui peuvent donc pourrir et disparaître. Donc, ils sont encore là. Donc, c'est un problème d'environnement. Je pense qu'il faut...
Vous en voyez beaucoup à travers les rues de Dakar?
Bien sûr. Vous allez à la boutique, vous achetez n'importe quoi, on vous met dans un chassé. Après utilisation, vous jetez un peu partout. C'est vraiment un désastre à Dakar.
Tu achètes un petit sandwich, tu achètes un petit produit, on te donne toujours des produits comme les sacs plastiques noirs. Et puis, voilà quoi, pour moi, c'est un fléau.
La présence de ces sachets dérange, alors qu'il faut trouver des solutions. Madame Barry Fama pense que le recyclage du plastique peut être une solution.
Bien, on met en place des projets de recyclage, donc des produits plastiques.
Pour Massamba Samb, c'est à l'État de prendre ses responsabilités pour réguler l'utilisation des sachets plastiques.
Je pense que c'est une mauvaise volonté de l'État. Parce que si l'environnement, le ministère de l'Environnement, il y a un ministère qui prend ça en charge. S'il montre une volonté politique pour imposer l'utilisation des sachets, comment dirais-je, en papier, sera utilisé. Effectivement, moi, par exemple, quand je vais dans les stations, s'ils veulent me donner des sachets en plastique, je préfère prendre mes produits, n'est-ce pas? Parce que les personnes ne sont pas sensibilisées par rapport à l'environnement. Donc les Sénégalais, ils n'ont pas encore ce geste-là avec l'environnement. Parce que tout le monde se dit, ok, si c'est une personne, ça ne veut rien dire. Alors que c'est la somme de ces utilisations-là qui fait que la ville est infestée de produits en plastique.
Au Sénégal, selon des experts de l'environnement, au moins 5 millions de sachets en plastique sont utilisés par jour à travers des usages commerciaux et domestiques. Cela fait à peu près 128 milliards de sachets en plastique utilisés par an dans notre pays. Dienaba Sedouba, Dakar, pour La Voix de l'Amérique.
La prolifération des sacs en plastique, qui sont jetés le plus souvent dans les rues, provoque différentes pollutions. Nous avons rencontré à Lomé David Guettou, il est spécialisé dans le recyclage des plastiques.
On parle de pollution visuelle, je crois que le terme est assez parlant. Terme de pollution.
Pas que visuelle, hein, puisque ça atteint les nappes phréatiques.
Clairement, les conséquences sont multiples sur l'environnement, sur la santé. Même on peut parler de cohésion sociale qui va stigmatiser des quartiers, donc clairement des populations. Il y a un ressenti qui s'instaure parmi les populations. Et ça, oui, on peut parler même de facteurs qui nuisent à la cohésion sociale, réellement. Sans parler, bien sûr, au niveau touristique, de l'économie touristique, puisque c'est quand même assez rebutant, enfin, l'aspect des rues, d'une manière générale.
Lomé, comme d'autres capitales africaines, est en proie à la pollution. Ne disait-on pas Lomé la belle est devenue Lomé la poubelle? Depuis plusieurs années, la mairie a tant bien que mal tenté de mieux organiser les décharges. Des décharges où nombre de jeunes tentent de récupérer tout ce qu'ils peuvent, et en particulier les plastiques. Nous nous sommes rendus au dépotoir secondaire de B.
Transformateur là.
Je vois que j'ai
Transo.
Oui. Je vois que
c'est quoi, tout est trié là.
Oui.
Vous avez trié quoi, monsieur?
On trie tout les déchets, on casse, on fait tout. Nous on vend seulement ce qui est bon pour nous. Nous on prend ça pour aller vendu.
Qu'est-ce qui est bon à vendre?
Les cuivres, les aluminiums, les bronzes, les fers et autres, les plastiques. 50 francs par kilo.
Et le cuivre, c'est combien?
Le cuivre, c'est à 2500 kilos. Et 50 francs le fer. 50 francs le fer. Aluminium, c'est 400 francs par le kilo.
Tu as entendu parler de la PET?
Ouais,
c'est une association qui fait les plastiques durs.
Ouais.
On fait ça pour faire les granulés, pour le port, la zone franche. Là.
Et,
ouais. Et puis on vient voir pour les plastiques souples, sachets.
Si tu me connais, je suis venu pour payer sachets ici les fois.
Je ne m'en souviens pas. Normalement.
Maintenant, on va essayer de les collecter chaque fois. Chaque fois, on va essayer de les collecter maintenant.
Ça, c'est le plastique, le gros. C'est eux qui achètent ça chez nous pour, et nous, on transforme ça. C'est ce que j'ai dit.
David Gaitou est l'un des fondateurs d'ADEL, l'association d'aide au développement durable économique local, qui tente de développer une initiative assez incroyable, recycler les plastiques pour en faire des pavés. Oui, des pavés qui peuvent ensuite servir pour faire de meilleures routes. Plus d'explications avec David Gaitou.
Le liant, donc le pavé, est fabriqué avec environ 25% de sachets plastiques. Sachets plastiques, la composition clairement, enfin chimique, c'est l'hydrocarbure, c'est-à-dire de l'eau et du carbone. Donc par conséquent, lors de la combustion, c'est en tout cas le résultat des tests menés au Canada, en Belgique, en France, etc. C'est de notoriété publique. Lors de la combustion des sacs en eux-mêmes, il se dégage l'équivalent de, on parle de l'équivalent d'un feu de bois. Alors, je ne vais pas vous dire que c'est bon à inhaler ou que ce soit, c'est absolument pas acceptable pour nous. D'autant plus que dans ces fameux sachets, on peut trouver quantité de polluants. Et lors de donc, la fusion de ce plastique, on peut se retrouver avec des émanations largement toxiques et pour l'environnement et pour les opérateurs. Donc nous, on a eu le souci très rapidement, dans cette version réévaluée du procédé Serval, de mettre l'accent sur la gestion des fumées. Donc on parle de gestion intégrée, c'est-à-dire que lors de la formation qu'on veut donner aux opérateurs et aux apprenants, on va bien sûr les former au port du masque. Alors il y a différents types de masques, mais c'est vrai qu'on va chercher une protection maximale pour un simple cache-poussière. On ne peut jamais convenir à ce type d'usage. Enfin, en tout cas, on ne peut pas travailler dans des conditions comme ça. Ça, c'est clair et net. Donc nous, c'est sur cette base-là qu'on veut développer notre gestion intégrée des fumées au niveau individuel. Alors le petit plus, il y en a quantité, mais notamment un petit plus, c'est qu'on a trouvé la possibilité de recharger les capsules de filtrantes, qui sont en fait rien d'autre que du charbon actif, et de les recharger pour pouvoir garantir vraiment un filtrage des fumées vraiment optimal. C'est-à-dire à moindre coût, pour que la contrainte financière ne soit pas une contrainte réellement, c'est-à-dire que les opérateurs n'aient pas à se poser la question de savoir est-ce que je joue ma santé ou quelques pièces de monnaie. Non, clairement, on arrive à abaisser les coûts en termes de protection des individus, vraiment pour que ça soit abordable pour des opérateurs africains, en Afrique en tout cas, clairement. Et ensuite, c'est vrai qu'on se projette un peu, mais c'est vrai qu'on a découvert la possibilité, avec des matériaux, différents matériaux, de proposer à ces opérateurs de fabriquer eux-mêmes un masque autrement plus résistant et réellement adapté à l'Afrique.
David Gaitou, fondateur d'ADEL, l'association d'aide au développement durable économique local à Lomé, au Togo. Le Togo, où vous nous écoutez sur le 100.9 FM à Sokodé. C'est en compagnie du groupe Touareg Tartite que nous démarrons cette page culture un petit peu particulière aujourd'hui. Un peu particulière car nous allons parler d'un livre, d'un ouvrage qui n'est pas encore paru. Le journaliste Arnaud Contreras, qui sillonne le Sahel et le Sahara depuis 15 ans, a le projet de publier un livre pour donner une image positive du Sahel et du Sahara. Des régions dont on n'évoque plus que les trafics, les prises d'otages et les groupes armés. Pourtant, ces régions vibrent d'une énergie et d'une culture très riches qu'Arnaud Contreras souhaite capturer. Retour sur la genèse du projet avec Arnaud Contreras.
Sahara Rocks, en fait, l'idée, c'est vraiment d'essayer de présenter en photo et en texte la culture saharienne, sahélienne par extension, aux personnes qui ne connaissent pas cette culture. Une culture qui est bien ancrée en 2014, qui est ancrée dans la modernité, et qui est loin des clichés qu'on peut avoir sur le Sahara et le Sahel, à savoir les hommes bleus sur les dunes. Voilà, il se passe beaucoup de choses au Sahara et au Sahel. Il se trouve que je voyage là-bas depuis une quinzaine d'années, j'y vais régulièrement, que les musiciens, la sphère culturelle sont souvent ma porte d'entrée pour comprendre leur société, pour comprendre un petit peu comment fonctionne ce monde saharien. Et voilà, j'adore cette musique, j'aime beaucoup cette culture, les différentes cultures sahariennes, parce qu'il y a plein de cultures sahariennes qui se côtoient. Et puis j'étais toujours un petit peu déçu en rentrant en France de voir qu'on présentait qu'un aspect de la culture saharienne qui était l'aspect un petit peu mythique de la mythologie coloniale de l'époque. Voilà, qu'on présentait qu'une toute petite partie du Sahara et j'avais envie de présenter ces gens qui aspirent à la modernité, qui écoutent des musiques qui viennent du monde entier, qui pour les musiciens qui jouent de la guitare électrique, pour les jeunes et les moins jeunes qui communiquent par des téléphones portables, des smartphones. Voilà, j'avais envie de partager ces rencontres.
Vous avez beaucoup suivi des musiciens. Pourquoi avoir choisi un livre ou est-ce que vous avez eu envie à un moment de rajouter un volet sonore ?
En fait, j'ai déjà réalisé pas mal de documentaires radio, de documentaires filmés. Fait aussi beaucoup de photos, d'entretiens lors de ces reportages. Et j'avais envie de réunir un petit peu tout cela sous la forme d'un livre, en fait, pour vraiment essayer de témoigner. C'est-à-dire la radio est assez fugace, passe vite, un film aussi. L'objet livre permet de se poser un petit peu plus longtemps sur le sujet. Il est parfois aussi plus ludique qu'un documentaire radio. Puis aussi, c'est un hommage. C'est un hommage à... On a dit beaucoup de choses autour du Sahel et du Sahara à l'occasion des tristes événements au Sahel, que ce soit les enlèvements, les attentats, la guerre au nord du Mali. Et j'avais envie aussi de dire la vie continue là-bas. La vie continue au Sahel et au Sahara malgré tous ces tristes événements. Alors, je veux pas les occulter, on en parle beaucoup, et on en parlera un petit peu dans le livre. Mais c'est vrai que les musiciens, et pas que les musiciens, les poètes aussi, le théâtre, la sphère culturelle au Sahel est très active. On en voit une petite partie en Occident grâce à des groupes comme Tinariwen, Bambino, Tammy Crest, Terra Kaft. Mais il se passe beaucoup de choses. Et la vie continue au Sahel et au Sahara malgré les événements. J'avais envie de témoigner de cela, j'avais envie de par des textes et des photos, de témoigner de ces rencontres, de ces échanges aussi, où certes on parle des mauvaises nouvelles, mais je dirais qu'une majeure partie des conversations concerne de bonnes nouvelles, concerne la création, concerne la culture, concerne ce Sahara qui est bien ancré en 2014.
Nous reviendrons demain sur le projet Sahara Rocks. Si vous souhaitez contribuer à ce projet, une seule adresse, sur internet évidemment, fr.ulule.com/sahara-rocks. Vous n'avez pas eu le temps de noter le lien, retrouvez-le sur notre page Facebook VOA Sahel+. Sahel+, c'est fini pour aujourd'hui. À la réalisation, Joselle Morissin. À la console, Nick Ivanov. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Nous nous quittons en musique avec le groupe Tammy Crest et Janek et Toumast. Rendez-vous demain, 21h, temps universel sur la Voix de l'Amérique ou d'ici là sur nos pages Facebook ou Twitter, VOA Sahel+. Bonne soirée et bonne nuit à tous.